J'ai fait un rêve étrange. J'avais la tête sur le bio et le bourreau me dit...
Un bon mot et tu as la vie sauve. Ce rêve, nous l'avons tous fait à la cour. Et perdez cette habitude de rire de toutes vos dents, c'est infiniment rustique.
Ah, il faut se multiplier.
Venez, respecte.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Un jour, Claude Sautet lui a dit « Toi, quand tu joues, on ne sait jamais si tu es sincère ou si tu te fous de notre gueule. Tu n'es pas facilement cernable. » C'est toujours vrai, même après 90 films, et c'est tout ce qui fait son mystère et son talent. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
La caméra dont il se méfiait l'a enfin apprivoisé à 35 ans. Ses vrais débuts au cinéma. Bonjour Charles Berling.
Bonjour.
Pour la première fois avec nous ce matin, nous aimons votre nature caméléon qui vous permet d'habiter tous vos rôles, même les seconds, et de leur redonner valeur et valeur et valeur. Comme dans ce film, 3 jours et une vie, signé Nicolas Boukreyev, dans lequel vous incarnez le père de la petite victime. Ce film noir, adapté d'un livre de Pierre Lemaitre, nous entendrons aussi l'écrivain, fasciné par les acteurs, capable de restituer en quelques plans des sentiments qu'il a mis, lui, des heures à comprendre. Le mystère de l'acteur, le vôtre, de ridicule à aujourd'hui, nous tenterons de l'élucider ce matin, on peut toujours rêver. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, vraiment dominé par 2 films. Le premier, réalisé par une actrice, Tu mérites un amour, et Jeanne, le tout nouveau Bruno Dumont, un objet de cinéma tout à fait fascinant. Eh bien, on va dire que c'est parti.
3 ans après l'affaire Dutroux, une disparition secoue le village de Aulloy dans les Ardennes belges, celle du petit Rémi de Smet, âgé de 6 ans et demi. La police diffuse son signalement, celle d'un enfant blond, aux yeux clairs, mesurant 1m18. Il porte un blouson bleu, un pull gris et des bottes en caoutchouc noir. Toutes les hypothèses sont envisagées. La sécurité civile devrait procéder à des recherches près de la rivière de Aulloy.
T'inquiète pas, on va le retrouver, Rémi, hein ?
Un enfant disparaît dans cette petite ville des Ardennes à la veille de Noël. C'est le point de départ de 3 jours et une vie de Nicolas Boukreyev. Nous, spectateurs, connaissons l'auteur de ce crime dès le début. Alors, il ne s'agit pas d'un polar, mais d'un film noir qui va se concentrer sur cette question au fil des ans. Comment ce garçon a-t-il pu survivre à son acte ? Et au-delà de ça, comment une communauté dont vous faites partie, Charles Berling, et de plus père de la petite victime, comment cette communauté va imploser et chauffer à blanc toutes les passions ? Mais quel sujet, non ?
Oui, mais c'est un très beau sujet, parce que c'est vrai que on suit cet enfant qui, après, sous les traits de Pablo Paoli, va devenir, disons, adulte. Et va revenir, au fond. C'est-à-dire, c'est un film qui se passe sur 15 ans. Donc, c'est très beau ce que Pierre Lemaitre raconte au départ dans son livre et ensuite ce que Nicolas a traduit en cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et qu'est-ce qui fait que il est toujours sur le point de se dénoncer, sur le point de balancer son fardeau, quoi. Et puis qu'il le fait jamais.
C'est pour un sujet que vous entrez dans un film?
C'est pour un sujet, c'est pour des gens, c'est pour un réalisateur, et après c'est pour la curiosité que et le fait que je me dis pour un rôle, donc que je me dis ça je l'ai pas fait. Et donc quand Pierre Lemaitre et Nicolas sont venus me voir pour me proposer le rôle de
Michel Desmet,
cet alcoolique prolétaire, ça m'a touché qu'il me propose un rôle que j'avais jamais joué.
Le cinéma vous a jamais pensé en prolétaire?
Alcoolique.
Non, très rarement. Au théâtre plus, mais très rarement, parce que je suis plutôt catalogué dans les rôles soit d'intellectuel, soit de profession libérale en général.
L'idée, c'est de défendre, dans ces cas-là, un personnage? L'idée de la défense, l'idée de la...
Pour moi, c'est oui, bien sûr, mais c'est parce que quand on joue un personnage, on passe, enfin, il y a aucune barrière, enfin, il y a aucun point de vue moral, c'est-à-dire, c'est une existence, quoi, qu'on essaie. Alors, Par exemple, pour Michel Desmet, comme moi, je par ma mère et par ma grand-mère maternelle, donc je viens d'une, ils étaient de Casteljaloux, d'une société, c'est une famille qui était extrêmement pauvre et très 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 rurale, très prolétaire, donc j'ai ça en moi, j'ai une dualité depuis toujours entre la bourgeoisie de mon père et le prolétariat de ma mère.
C'est intéressant pour nourrir.
Et ça, ça veut dire que quand on tout d'un coup on me propose un rôle comme ça et ça fait immédiatement j'ai envie d'aller voir ces zones-là en moi.
Michel Desmet, le père de la petite victime, donc qui sera au départ soupçonné par la police.
Monsieur Desmet, vous avez tué votre chien hier?
Mon chat l'a renversé avec sa voiture, et il souffrait, il était perdu.
Attendez, vous avez tiré au fusil de chasse en pleine ville?
Mais enfin, ça n'a rien à voir avec mon fils, pourquoi on ne le cherche pas, là, plutôt que de parler du chien?
Vous m'avez dit que quand vous êtes sorti de chez vous hier vers 9h15, Rémi était là dans le jardin, c'est bien ça? Et ensuite?
Ici, il y a la fabrique, et le petit est venu avec moi au coin de la rue, comme d'habitude. Et puis il est retourné vers la maison, je l'ai vu.
Vous allez me montrer ça?
Mais il n'y a rien à montrer, bordel de gueule!
Monsieur Desmet, je vous comprends. C'est pas bien facile tout ça. Mais là, ça colle pas.
C'est quoi qui colle pas?
Vous laissez Rémi au coin de votre rue, à 9h15. De là, pour aller à la fabrique, il vous faut quoi? 10? 15 minutes?
Et alors?
C'est arrivé à 10h passé, tous vos collègues le confirment. Monsieur Desmet, moi je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait entre 9h15 et 10h?
Je sais pas, moi. J'ai dû m'arrêter au café.
Sans vouloir vous vexer, c'est tout de suite ce qu'on a pensé. On a vérifié. Personne ne vous y a vu. Monsieur Desmet, on va parler de ça comme vous. J'ai juste besoin de ce que vous voulez. On va laisser votre femme se reposer. Allez.
3 jours et une vie de Nicolas Boukrieff, une galerie de portraits dans cette petite ville qui permet de retrouver la valeur de la notion de second rôle, dit Nicolas Boukrieff. C'est un truc que, vous voyez, on en a eu beaucoup dans le cinéma français, on en a un petit peu moins maintenant. Vous accordez beaucoup d'importance à cette notion-là de second rôle, Jean Berling.
Disons que le cinéma permet, contrairement au théâtre, de pouvoir jouer des seconds rôles, quoi. Donc là, c'était le cas avec ce film où c'est entre Sandrine Bonnaire, Toretton, c'est-à-dire il y a forcément le rôle principal, c'est l'enfant, puis l'enfant devenu adulte. Et nous, on est autour de ça, on fabrique la communauté qui est autour. Donc, mais le cinéma permet d'aller tourner. On a tourné beaucoup, on a tourné plus que ce qu'il y a en fait. C'est-à-dire. Il a dû couper beaucoup dans son film, mais à juste titre, hein, il a fait un montage, Nicolas, beau, quoi. Mais d'ailleurs, c'était intéressant de tourner plus que ce qu'il y a ensuite. Ça, c'est le cinéma. Le théâtre, ça serait difficile pour moi de faire un second rôle parce que c'est trop long, quoi. Tandis qu'au cinéma, on a un enjeu, et puis là, pour moi, je l'accepte direct quand il y a un enjeu intéressant.
Il y a un premier rôle qui est très intéressant, c'est un jeune acteur qui débarque, c'est Pablo Poli, non?
Magnifique acteur, magnifique. Je crois que c'est un acteur dont on va entendre beaucoup parler dans les années qui viennent, parce que on sent tout de suite que c'est un acteur extrêmement qui a beaucoup de possibilités, qui peut tout jouer. C'est un être extraordinairement doué, oui.
C'est Pierre Lemaitre donc qui a proposé à Nicolas Boukrieff de faire un film de son livre. On appelle ça une commande et à travers laquelle le réalisateur a inscrit sa patte sans vouloir dépasser le scénario par des effets de style, mais en y injectant du cinéma, de la littérature au cinéma. Nous avons rencontré Pierre Lemaitre. Il parle aussi de vous, Charles Berling, bien sûr.
Monsieur Desmet, l'assassin peut être un habitant de n'importe quel village des environs. Il faudrait analyser l'ADN de milliers de personnes et ce serait une recherche aveugle parce que l'assassin peut être une personne de passage. Ce serait une démarche vaine et une dépense dont nous n'avons malheureusement pas les moyens.
Bonjour Pierre Lemaitre.
Bonjour.
Pourquoi on ferme un film, finalement? Est-ce que c'est pour aller au bout de cette histoire?
Je me suis pas posé la question comme ça, mais je trouve la question intéressante. Vous avez raison. Il y a peut-être quelque chose dans le fait de vouloir continuer d'interroger l'histoire qu'on a écrite. Plus prosaïquement, il y a aussi une autre chose, c'est que tout le monde ne lit pas et que moi j'ai envie que mes histoires soient connues, alors qu'elles soient lues, qu'elles soient vues, qu'elles soient entendues, m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est que les questions que je pose là, qui touchent le libre arbitre, la destinée, la responsabilité d'une manière générale, qui touchent la morale, eh bien que quel que soit le vecteur, ça puisse toucher le maximum de gens, alors que ces gens-là soient des spectateurs, des lecteurs, des auditeurs, enfin tout ça, pour moi, c'est un public.
C'est un mystère insondable pour vous, l'acteur ?
Oui, l'acteur est un mystère total. Je ne sais pas, vraiment c'est un mystère, vous avez tout à fait raison, je ne sais pas comment les acteurs font pour, en un laps de temps extraordinairement court par rapport à ce qu'est le tournage, ils attendent 45 minutes le moment de tourner une scène qui va durer 28 secondes. Et en 28 secondes, ils ont la capacité à être émotionnels, à faire passer quelque chose que vous avez mis des heures à comprendre. Ces gens-là sont des êtres exceptionnels. Exceptionnels dans une capacité d'intégrer un très très grand nombre d'éléments et de les restituer à la seconde même dans un ordre qui est celui du personnage. Ça, pour moi, c'est un mystère absolu.
Vous avez parlé avec Berling, par exemple, sur le plateau.
Je parle pas avec les acteurs sur le plateau parce que Nicolas ne veut pas. Et il a bien raison. Il me dit, écoute, ne va pas perturber les acteurs, va pas leur parler. C'est logique. Donc, moi, je ne parle pas. Mais par contre, bien sûr, avec Charles Berling, on a beaucoup parlé au bistrot, hein, forcément.
Mais alors, vous jouez dans le film. Vous avez eu la trouille de jouer ce procureur. En plus, vous jouez devant une grande assemblée. Et Charles Berling est au milieu, dans ce personnage qui vous invective. Vous avez eu les jetons.
Non, j'ai pas eu du tout peur. Ça m'a beaucoup amusé parce que tous les acteurs, il y avait Philippe Torreton, il y avait Sandrine Bonner, il y avait Pablo Poli, il y avait Charles Berling, ils étaient tous là. Et surtout Charles, hein, qui est très malin, me mettait sans arrêt la pression en disant, bah, cette fois-ci, on va voir, tu passes de l'autre côté, etc. Bon, c'était très amusant, c'était très fraternel. Et puis, je vais vous dire, j'ai eu un coach, c'est que la veille au soir, j'ai demandé à Philippe Torreton de venir dans ma chambre d'hôtel et de me faire travailler. Alors, j'ai travaillé la scène avec lui. Donc, en fait, je pouvais dire le lendemain, si je suis mauvais, c'est pas moi, c'est mon coach.
Est-ce que ce film vous a appris quelque chose par rapport à votre activité d'écrivain ?
Oui, ce film-là m'a appris, m'a confirmé dans quelque chose que je sentais, mais je n'avais pas encore vécu vraiment narrativement, c'est que plus vous resserrez votre histoire autour d'un noyau restreint de personnages, plus la force émotionnelle est au rendez-vous. Ça, c'est une vraie découverte. On a, avec Perrine Margen, qui est ma complice dans cette adaptation, on a resserré autour de 3-4 personnages, une très petite poignée de personnages, l'ensemble de la narration. Et tous les événements qu'on pouvait ramener à ce noyau-là, on l'a ramené. Et je trouve que c'est très payant, le film. Je crois très réussi grâce à cela. Et ça, c'est assez nouveau.
Quelle est la scène qui serait le plus loin de votre livre et le plus proche du cinéma ?
Il y a une scène à la fin qui me plaît beaucoup, je ne vais pas en dire trop pour ne pas gâcher le plaisir des auditeurs. Antoine va fixer une assiette. Voilà. Alors, il y a dans ce plan, j'espère que c'est assez mystérieux pour vous donner envie d'aller le voir, il y a dans ce plan une très grande profondeur de réflexion. C'est extrêmement léger, c'est très délicat, c'est pas mélodramatique, c'est extrêmement économique, c'est simple. Mais émotionnellement, c'est quelque chose dont je me suis dit, ah, c'est dommage que je n'ai pas eu cette idée-là quand j'ai écrit le livre.
Mais c'est vraiment une idée de cinéma. Et je ne sais pas si c'est une idée qui serait bien passée en littérature.
Et vous avez tout à fait raison. Parce que c'est une image.
Oui.
Parce que c'est une image. Ce n'est pas une scène, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une intention, ce n'est pas une émotion. C'est une image. Et ça, c'est ce que c'est le mieux faire le cinéma. Et c'est ce qu'a apporté Nicolas à cette histoire.
Charles Berling, Pierre Lemaitre évoque le mystère de l'acteur. Vous avez dit un jour, le cinéma m'a désarçonné, m'a fragilisé, il a tout déconstruit, il m'a renvoyé une image inédite de moi-même.
Oui, c'est-à-dire, absolument, le cinéma m'a permis de mieux approcher, de mieux chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que être. Parce que moi, je suis d'une nature trop volontaire. Donc le cinéma et l'art dramatique en général m'apprennent justement à chaque fois je redécouvre qu'il vaut mieux être que faire.
Mais on ne sait jamais qui vous êtes en fait dans les rôles. On s'attend à tout avec vous. Vous êtes
Oui, parce que c'est vrai que c'est paradoxal, mais je suis à la fois très volontaire et en même temps rien quoi, très lâche, très 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 comme une brume, quelque chose. Donc j'aime tout d'un coup à resserrer cette énergie dans une identité qui, même si elle est éloignée de moi.
Mais qu'est-ce que vous apporte le cinéma à côté du théâtre qui est votre vie?
C'est ce que vous disiez là, que j'avais, c'est-à-dire que j'avais déjà exprimé, c'est-à-dire comment
vous voir aussi.
C'est-à-dire le cinéma propose une sorte de puzzle, un peu quand je dis déconstruit, c'est-à-dire que il y a pas de chronologie, c'est pas si raisonnable que ça. C'est des couleurs, c'est quelque chose de presque plus abstrait au moment où on le construit, même si après, à travers le montage, le réalisateur.
Ce puzzle dont parle Pierre Lemaitre, justement, ils sont capables, les comédiens, dit-il, de restituer une émotion à différents moments du film et dans le désordre.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ça m'apprend ça. C'est-à-dire, donc, la disponibilité, donc, une grande perméabilité à beaucoup de choses. Et puis, même là, quand on faisait le film avec Nicolas et les autres, on sait qu'on va arriver. Pour moi, je sais que je vais arriver au moment du tournage. Et après, au moment du tournage, j'essaye de sentir comment l'équipe, à quel moment l'équipe va être, que tout le monde va être prêt pour que la prise soit bonne. Donc, il y a une sorte d'entonnoir comme ça où on se dirige vers la prise à tourner et le moment où ça sera la bonne prise, parce que c'est forcément il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de nécessités techniques, ce qui est beaucoup moins le cas au théâtre.
Jean-Anne Fontaine dit que vous demandez beaucoup de prises et que vous n'hésitez pas à être mauvais dans une pour construire, pour arriver à être bon dans la bonne.
Déjà pour moi c'est une base, quoi, c'est-à-dire que un acteur ou une actrice qui ne veut pas être mauvais, qui craint trop d'être mauvais, il finit par le devenir. Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, mais dans tout, dans la vie aussi. Mais c'est-à-dire, il faut risquer l'échec pour réussir un peu. Et donc oui, c'est avec Chéreau par exemple aussi, il y avait beaucoup de prises et puis il y avait même une emprise de lui au moment des prises. Et donc c'est intéressant de construire sur aussi sur la base de ses échecs.
Eh ben justement, on n'avait pas prévu de le mettre maintenant, mais on va écouter ceux qui m'aiment prendront le train donc de Patrice Chéreau.
C'est pas de sa faute, c'est nous. Lui, il voulait pas être un père. Peut-être que personne veut être père, je me dis. Il voulait pas d'enfant, il voulait pas d'héritier. Il savait très bien ce que c'est que la famille. Il allait pas s'en inventer une, il savait très bien combien ça sent la mort et les trucs minables. Depuis toujours. Moi, je crois qu'il est revenu ici que pour solder les comptes, pour boucler la boucle, et que ça s'arrête enfin. Il voulait pas que ça continue, et il voulait pas continuer. Il voulait être le dernier, et maintenant, c'est fini. En tout cas, moi, je le trahirai pas là-dessus, c'est moi le dernier. Aymeric, il n'y en aura pas d'autre. La nature fait bien les choses, elle laisse pas continuer ce qui est déjà bouffé par la mort.
Patrice Chéreau, moi j'avais vu tourner Charles Berling, il est tellement près des acteurs, il vous parlait pendant les prises aussi.
Oui.
Et ça,
il parlait et puis il
accompagnait.
Il dirigeait même, il accompagnait aussi la caméra. Oui, mais il le faisait de telle manière que, parce que Patrice c'était un acteur aussi, donc il avait une énergie qui savait ce que c'est, il était extraordinairement intuitif sur même la personnalité de chaque acteur, donc il le faisait pas forcément avec tout le monde. Il avait l'art de s'adapter aux instruments qu'il avait devant lui, quoi. Je sais pas comment dire, pour ça, et donc à travers cette présence, presque au milieu du guet entre la caméra et l'acteur, et ben il impulsait l'énergie qu'il fallait.
On va remonter dans le temps. Je disais en ouvrant cette heure que c'est à 35 ans qu'on vous a découvert dans Ridicule de Patrice Lecomte. Jusque-là, donc c'est
37.
À 37 ans, pardon. C'est important. Hein. Dans ce rôle de Marquis Candide, quand même, face à vous, Rochefort, Ardan et Giraudeau.
Je crois reconnaître votre obligé. Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour.
Il est écrit « Ne juge point et tu ne seras point jugé ».
Vous pensez bien que si les évangiles étaient de quelque utilité à Versailles, cela serait venu à ma connaissance. Joignez-vous à notre parti, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point.
Les boucles d'argent de mes souliers sont ma seule richesse. Mais vous pouvez les estimer de plus près, en vous courbant bien.
Que sollicitez-vous à Versailles ?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans.
Pauvres gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui.
C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
Il est moins sot qu'il n'en a l'air.
C'est toute la différence entre nous, monsieur.
Sa Majesté, la Reine.
Ça, c'est du texte, hein, Charles Berling.
C'est un scénario génial.
Et vous avez en face de vous donc Rochefort, qui est très bienveillant, et Giraudeau, il est comment ? Il était comment ?
Giraudeau, il était, on s'est très bien entendu, mais le premier jour, il a été très, très, très agressif avec moi. Enfin, une agressivité très, comme ça peut être au cinéma, c'est-à-dire que.
Et puis comme son rôle dans le film.
Il connaissait très bien Fanny Ardan. Il avait tourné plusieurs films avec elle, Patrice, évidemment. Donc il avait un gros bagage au cinéma que je n'avais pas, et en plus le premier jour où on a tourné, pour des raisons de lumière, on le filmait lui. Et au cinéma, quand vous n'avez pas la caméra sur vous, si vous passez toute une journée à donner la réplique à l'autre, c'est le cinéma, la caméra allume l'acteur, c'est-à-dire... Vous savez, sur les tournages, on le voit, les acteurs sont électriques. Alors ça passe par des plaisanteries, ça passe par une énergie un peu folle, et par cette capacité que peuvent avoir les acteurs à dominer l'espace. C'est-à-dire, tout est à eux, n'est-ce pas ? On le voit avec des grands acteurs comme Depardieu, mais parce que lui, après, il a même... Il fait ça même dans la vie, c'est-à-dire le monde appartient... Ça devient une fiction, n'est-ce pas ? Tout devient... Et sur un tournage, il y a cette énergie. Et là, il y avait la caméra sur lui, et moi, je m'éteignais au fur et à mesure. Mais vraiment, je m'éteignais, je prenais... Et ça, pour moi, c'est toujours... ce jour-là, c'était un peu comme sur un ring, où tout d'un coup, on prend tellement de coups que... Et l'autre, il faisait des blagues, et il avait tout le monde dans sa poche. Et moi, j'étais... J'étais complètement inhibé de plus en plus. À tel point que Patrice Lecomte est arrivé à la fin de la journée, m'a dit, écoute, vraiment, Bernard, il est gentil, t'inquiète pas, et tout. Je sais pas pourquoi il fait ça, et tout. Et moi, j'étais comme ça, j'étais comme sonné comme un boxeur, et je lui dis, écoute Patrice, t'inquiète pas, demain je reviens.
Je pense que ce genre de situation.
Mais après, ça s'est bien passé, hein, que Bernard, j'aimais beaucoup Bernard Giraudeau. C'était un être très intéressant, beaucoup plus complexe qu'on pense, et un acteur absolument prodigieux. D'ailleurs, dans Ridicule, il est fantastique.
Ça n'a pas dû avoir lieu avec un autre acteur qui est Michel Bouquet, que vous avez rencontré sur un tournage d'Anne Fontaine. Ce film, c'est « Comment j'ai tué mon père ».
C'est pas une question d'argent. Bien sûr que je pourrais le trouver, ce fric. Je suis pas plus pingre qu'un autre, mais qu'est-ce que tu vas faire dans des pays avec des régimes impossibles, des guerres civiles, une chaleur de bête? Tu veux tomber malade et que j'aille te chercher en avion sanitaire? C'est aberrant, on repart pas à zéro à 75 ans, c'est irresponsable, presque immoral. Il y a des cycles de la nature, on les respecte. On passe la main, on cultive ses rosiers.
J'ai pas de rosiers.
C'est une manie chez toi de déguerpir. Tu veux quoi ? Reprendre le train 19h25 et repartir vers l'exil comme un grand excentrique ? Et toujours avec cette bonne conscience. Mais qui peut avaler ça ? C'est de l'abandon chronique. Jusqu'au bout, tu veux décevoir ?
Décevoir qui ? Personne ici ne réclame ma présence.
Alors, si tu te sens libre comme l'air, et pour t'aider, comme ça, non. Je ne veux pas t'enfoncer davantage.
Bon, c'est un chapitre énorme dans votre vie et notre vie à tous de spectateurs. Michel Bouquet, vous avez même signé un livre d'entretien avec lui, Les Joueurs. Mais qu'est-ce qui vous a appris de plus important, cet immense acteur?
Mais Michel Bouquet, il m'a appris que, pour moi, c'est-à-dire la présence qu'il peut avoir au théâtre, celle qu'il l'a développée au cinéma, c'est-à-dire c'est comment faire pour que son temps à soi soit respecté, soit pas imposé, mais soit proposé à la mise en scène, et que c'est-à-dire que c'est un acteur qui est extrêmement centré, qui va son chemin de façon un peu, pas imperturbable, mais un peu comme le dirait Coltès, comme un hippopotame qui est là, qui avance dans la vase, et puis que rien ne pourra
dévier de son chemin. C'est exactement ce qui se passe dans l'extrait qu'on a entendu. C'est-à-dire, vous êtes comme un boxeur autour de lui, vous tournez autour, et lui, en une réplique.
Voilà.
Il donne le...
Et en même temps, Michel est un acteur totalement polymorphe, c'est-à-dire, il n'a pas d'existence d'une certaine manière qu'en dehors de ses fictions. Enfin, je dis bien sûr qu'il a une existence, mais il revendique le fait d'être un être qui a pris dès son plus jeune âge, quand il a tellement souffert de la réalité qu'il est parti dans, je parle pour lui, mais enfin c'est moi ce que j'ai ressenti de lui, donc après c'est ma version, mais la fiction est devenue pour lui son pays. Vraiment, et c'est beau. Hein. Je trouve c'est vraiment une façon d'être acteur qui est magnifique. Donc c'est ça aussi qui fait de lui que il y a une énergie absolument. Et c'est très intéressant le rapport le rapport étroit qu'il y a entre théâtre et cinéma pour lui.
Et dans votre filmographie, ce rôle dingue, celui de l'ennui de Cédric Kahn, adapté de Moravia.
Ah oui, merveilleux.
Je l'ai revu, ça reste un très grand film, l'histoire de Martin. C'est vous, professeur de philo, qui, en pleine dépression, rencontre cette jeune fille, Cécilia, qui est très opaque, et même avec toutes ces séances de relations sexuelles qui restent une énigme et qui va le rendre fou. Vous passez le film à la harceler de questions.
Qu'est-ce qu'il vous disait ?
Rien. Des fois, il pleurait.
Il pleurait ?
Il se prenait la tête dans les mains et il pleurait.
Vous savez pas pourquoi il pleurait ? Vous disiez pas ?
Non.
Il pleurait comme ça, sans rien dire ?
Non, il disait toujours quelque chose.
Quoi ?
Par exemple, qu'il pouvait pas se passer de moi.
En fait, si je comprends bien, il aurait voulu se passer de vous, mais il pouvait pas.
Non, il a jamais dit qu'il voulait se passer de moi. Au contraire, une fois, j'ai vu le quitter et il a tenté de se tuer.
Ah bon, mais de quelle façon ?
Avec des pilules. Des pilules qu'il prenait pour dormir.
Il souffrait d'insomnie ?
Oui, certaines nuits, il ne dormait qu'une heure ou deux.
À cause de vous ?
Il dit que tout ce qui lui arrivait est à cause de moi.
Comment ça ?
Pourquoi vous me posez toutes ces questions ?
Parce qu'il y a dans toute votre histoire avec Meyers quelque chose qui m'intrigue.
Quoi ?
Je sais pas. C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions, pour savoir pourquoi je vous les pose. Bon, où on en était ? Ah oui, pourquoi tout ce qui lui arrivait était-il de votre faute ?
Parce qu'il avait de plus en plus besoin de moi.
Dans quel sens avait-il besoin de vous ?
Dans tous les sens.
Dans le sens que vous faisiez l'amour ?
Oui.
Vous le faisiez souvent ?
Au début, une ou deux fois par semaine, et après, tous les jours. Et ensuite, deux ou trois fois par jour. À la fin, je comptais plus.
Pourquoi ?
Il voulait tout le temps.
Il n'était jamais rassasié ?
Non, mais il se fatiguait. Quelquefois, même, il s'est senti mal, mais il n'en avait jamais assez.
Ça vous plaisait ?
Ça plaît toujours à une femme qu'un homme lui montre qu'il l'aime.
Vous pensez pas que c'était seulement du vice ?
Non, il m'aimait vraiment.
Comment vous pouvez en être si sûre ?
Ce sont des choses qui sentent.
Seulement ?
Non, mais par exemple, il voulait m'épouser.
Mais il était déjà marié, non ?
Oui, mais il aurait divorcé.
Et vous alliez accepter ?
Non.
Pourquoi ? Pourquoi ?
Parce que je l'aimais pas.
Quel dialogue avec Sophie Guillemin qui commençait ce métier ?
Ah oui, on avait passé beaucoup d'auditions avec beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes. Et Sophie, quand elle est arrivée, avec Cédric, on s'est regardé. C'était évident.
Ce film me fait penser à ce que vous avez dit un jour sur votre métier, dévoiler une intimité et faire en sorte que le public prenne cela pour une offrande de vérité.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, Là, récemment, l'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un homme sans identité, où j'essaye de raconter comment faire de l'art dramatique, c'est il y a quelque chose de sacrificiel, donc il y a quelque chose où on doit se montrer nu, vraiment nu. Je trouve ça bien.
Et là, vous l'êtes.
C'est nécessaire. J'aime les acteurs, c'est parce que je trouve qu'ils se, voilà, ils sont comme un sacrifice pour la société. On peut le ressentir quand on joue. On a ce sentiment parfois.
Vous attendez quoi du cinéma, en fait?
Alors là, c'est très spécial. J'aime beaucoup. Il y a le moment très galvanisant, très incroyable de ce moment où la caméra tourne et où vous sentez que, justement, en connivence avec toute une équipe, un réalisateur, d'autres acteurs, vous êtes au bon endroit, quoi. Vous êtes juste, que vous êtes au bon endroit de vous-même, que vous êtes pas, que vous êtes au plus simple, que vous êtes. Et donc cette recherche-là face à une caméra, parce que la caméra au départ vous incite à c'est un peu comme un bâton dans l'eau, c'est-à-dire c'est pas direct, donc ça vous fait sortir de vous-même quelque part. Et donc la façon qu'il y a de se recentrer, de se retrouver soi-même malgré cette force qui vous excentre, hein, je sais pas comment dire ça, mais c'est ça qui est passionnant et qui provoque, c'est fascinant. Et ça ne s'arrête pas, sauf si, justement, il peut y avoir une lassitude pour moi, il peut y avoir un moment donné où on n'a pas envie de refaire les mêmes choses, quoi. Parce que le danger, c'est une forme de routine. Et moi, je ne peux pas le supporter. Mais le rapport à ce travail-là, c'est ce travail très bizarre qui est à la fois un travail et pas un travail, qui est au fond, qui est une recherche d'existence.
On vous retrouve, Charles Berling, dans 3 jours et une vie de Nicolas Boukreyev. Le film sort mercredi prochain. Oui. On va se retrouver pour les sorties après. Vous restez avec nous après The Liminianas Dreams.
Mais
On va commencer par pour les sorties de la semaine. Laurent Parreux, oui. Tu mérites un amour. C'est un premier film comme on aimerait en voir plus souvent. Mmh. Et signé Afsia Herzi, découverte actrice chez Kechi sur La Graine et le Mulet. Son héroïne Lila, c'est elle qui l'incarne, brisée par une rupture, tente de comprendre cette folie amoureuse, cette relation toxique. Et c'est au travers d'autres rencontres avec d'autres hommes que Lila va peut-être l'oublier, celui-là, et se retrouver peut-être raconté comme ça, on dirait le pitch d'une comédie sentimentale comme le cinéma français nous en offre régulièrement. Or, toi, spectateur, tu mérites beaucoup mieux avec ce film libre, sans affaîtrie, tellement cash, juste, malicieux, profond, drôle aussi, grâce à toutes ces nouvelles têtes rafraîchissantes. Et Dieu sait que le thème du chagrin d'amour a été ressassé, Laurent.
Oui, oui, c'est une très très belle surprise, parce que faut bien dire qu'on attendait un peu à Vialerzi au tournant kéchichien, c'est-à-dire l'après Kéchiche, ou le passage du cinéma de Kéchiche comme actrice à son propre cinéma à elle, ben ça elle le réussit bigrement, c'est-à-dire que évidemment il y a une filiation. Mais elle en joue. Par exemple, il y a une scène de fête, Kéchiche, on aurait fait 2h30. Elle, au bout de 5 minutes, avec un petit incident comme ça, hop, on arrête la fête et on passe à autre chose. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont très drôles par rapport à sa propre filiation. Et puis surtout, il y a effectivement cette idée de nous montrer de façon très, avec beaucoup de brio, ce que c'est que faire son deuil, avec ce titre emprunté à Frida Kahlo. On n'en dira pas plus parce qu'il y a une belle révélation de ce point de vue-là. Et donc vraiment, ce qui est très très étonnant, c'est que elle prend son envol, comme elle prend son envol d'ailleurs aussi comme actrice dans le cinéma de Kéchiche, où elle joue maintenant la tante de ces jeunes héros et héroïnes de Kéchiche, là elle prend son envol de réalisatrice avec un film vraiment presque parfait.
Le nouveau film de Cédric Clapiche, Deux mois, avec François Civil et Anna Girardot. Rémi et Mélanie ont 30 ans et vivent dans la même rue de Paris, leurs immeubles sont mitoyens, elles multiplient les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'ils peinent à faire une rencontre, tous deux victimes de cette solitude des grandes villes. Ce n'est pas vraiment une comédie romantique, ce serait même presque le contraire. Même proche physiquement, l'important n'est pas qu'ils se rencontrent, mais qu'ils rencontrent quelqu'un pour de vrai, et surtout qu'ils se rencontrent eux-mêmes. Pour cela, ils devront emprunter un chemin, la psychothérapie traitée de façon pas toujours subtile. Ah, mais je ne suis pas fou, déclare-t-il à son psy à son premier rendez-vous. On l'a tellement entendu, celle-là, au cinéma. Bref, quelques séances censées les faire grandir dans un film qui met du temps à démarrer, bizarrement, un rythme plus lent que celui auquel Clapiche nous a habitués. Quelques petits lieux communs, mais tout de même, le charme, le décalage et deux jolies interprètes. C'est déjà pas mal, non?
Oui, c'est pas mal. Il a une capacité à filmer, on va dire, les petits riens de l'ultra-moderne solitude, qui sont très très bien, c'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux sociaux, l'égocentrisme de la psychanalyse, enfin tout ça vraiment il le montre avec beaucoup de avec une vraie sensibilité. Peut-être qu'on aurait aimé qu'il aille plus loin, c'est-à-dire que ça je sais pas si c'est sa dénonciation, mais sa stigmatisation de cette ultra moderne solitude, elle aille plus loin, peut-être dans l'acidité, peut-être dans la mélancolie et pourquoi pas même dans la sécheresse. Voilà, c'est la réserve qu'on peut faire.
The Bras de Witt Helmer, il est allemand. Le conducteur de train Nourlan se rend à Bakou pour la dernière fois avant sa retraite. En contournant les quartiers de la ville, son train arrache un soutien-gorge bleu à une corde à linge. Pour échapper à son existence solitaire, Nourlan se lance dans la plus grande aventure de sa vie, retrouver la propriétaire de ce sous-vêtement. Mais c'est un cendrillon avec soutien-gorge, ça?
Oui, c'est ça. Ou c'est peau d'âne aussi, hein. Peau d'âne, il y avait l'alliance ou la cendrillon avec la pantoufle de verre. Oui, alors en plus, là, il faut bien dire que, sauf si c'était un cinéaste très 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 délicat, il nous aurait peut-être évité les essayages différents. Or, on n'évite pas les essayages différents sur différents corps, avec parfois même un peu de mépris pour les corps anciens et usés. Bon, voilà. Donc oui, franchement. Alors après, il reste une tentative absolument formelle et formaliste. C'est un film sans dialogue. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul dialogue. Oula. Tout passe par les attitudes, les regards, les mimiques, les chansons, la musique, les ambiances, les bruits. Voilà. Si on accepte ça, tout va bien. Si on a encore peut-être un supplément d'âme d'enfant que je n'ai plus, on ira jusqu'au bout de ce voyage en soutien-gorge.
Jeanne de Bruno Dumont, la suite de ce diptyque entamé avec Jeannette sur l'enfance de Jeanne d'Arc. Depuis plusieurs jours dans le métro, l'affiche du film me fascine, m'hypnotise, ce jeune visage qui vous regarde, cette puissance dans le regard de ce si jeune visage. Quelle merveilleuse idée d'avoir choisi une actrice si jeune, 10 ans, pour incarner Jeanne d'Arc. Lise Le Plat Prud'homme. Ce n'est pas une pose, ce choix, c'est l'incarnation de la forme parfaite de l'héroïsme et qui, lui, n'a pas d'âge. On peut vivre ce film comme a priori comme une épreuve, 2h18, exactement comme un randonneur devant un chemin dont il sait qu'il va être ardu et semé d'épreuves. Ce film, comme cette route, n'est pas aisé. Résumer les batailles, la défaite, l'emprisonnement et le fameux procès à Rouen, le tout décrit par Charles Péguy, l'austérité de son écriture, l'indigence des décors, une dune, un chemin, une cathédrale, une geôle, mais pas besoin d'argent, de fond vert ni de figurants pour transfigurer cette folle histoire. Oui, certes, quelques petites épreuves sur le chemin et une immense récompense à la fin, l'apparition divine, oui divine, de Christophe, le chanteur, qui signe la musique du film et surtout, Laurent, cette sensation d'avoir croisé la grâce.
Ah mais complètement, oui. Il y a au centre quand même, il faut le dire, la langue de Charles Péguy, oui. Qui est Péguy qui n'est ni de droite ni de gauche, ou est de droite et de gauche. On choisira pas comme Jeanne d'Arc d'ailleurs, c'est exactement pareil. C'est-à-dire c'est une figure absolument nationale qu'aucun parti ne devrait s'approprier a priori, parce qu'elle appartient à tout le monde. C'est ça aussi que nous dit Bruno Dumont, à travers aussi ce qui est une incroyable tragédie, jouée par cette petite fille dont le nom, et on le redit parce que Lise Le Plat Prudhomme, il n'y a pas non plus français, plus Péguy, plus Jeanne d'Arc que ça, c'est son nom à elle d'actrice. Je vous trouve un peu dur avec l'indigence des décors, parce qu'il y a quand même la cathédrale d'Amiens,
oui,
qui
sûr.
Joue un rôle incroyable, oui, non, avec notamment un pavement de labyrinthe, qui est une cathédrale à la fois baroque et gothique, qui est extraordinaire.
C'est pour dire qu'il n'avait pas besoin de...
Non mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, et il y a des bunkers à côté aussi qui sont pas mal. Bref, il retrouve au fond, Bruno Dumont retrouve ce qu'on pense être, ce qui se passait devant les cathédrales justement du Moyen-Âge, ce qui s'appelait les mystères. Je pense qu'il retrouve ça avec une incroyable capacité de cinéaste.
J'espère que ça vous a donné envie, Charles Berling, d'aller voir ce film.
Ah mais Bruno Dumont, c'était un cinéaste absolument sublime. J'ai toujours envie d'aller voir ce film.
Music of My Life de Gurinder Chadha, qui avait signé dans le passé, joue là comme Beckham. Javed, adolescent d'origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville anglaise qui n'échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l'écriture pour échapper au racisme, au destin de son père très conservateur. Mais sa vie va être bouleversée le jour où il va découvrir les paroles des chansons d'un certain Bruce Springsteen. Le décalage culturel, le racisme, l'intégration en milieu hostile, la politique de Thatcher, tout cela voudrait embrasser dans ce film qui ne fait que survoler les thématiques dans un flot de bons sentiments et de prévisibilité. Heureusement, il reste les paroles et la musique de Bruce Springsteen. C'est bien lui, le génie de cette histoire. On va terminer, Laurent, avec un cycle d'un comédien que vous devez aimer, qu'on l'aime tous, c'est Devers.
Trois Devers, sinon rien. C'est ça, selon le bon slogan de la semaine. Trois Devers, sinon rien. Le mauvais fils de Claude Sauté. Hôtel des Amériques d'André Téchiné. Beau-père de Bertrand Blier. En trois films, il survolait magnifiquement, avec effectivement à chaque fois des personnages très différents. Mais voir la petite larme couler sur sa joue dans Hôtel des Amériques, c'est une splendeur.
Il représente quoi pour vous, Devers, Charbonneau?
Il représente un acteur incandescent. Quand on parlait tout à l'heure de l'aspect, qu'est-ce que le sacrifice d'un acteur, ben, il représente ça de façon magnifique. C'est-à-dire, il s'est brûlé. Il avait un tempérament absolument unique et il a beaucoup mêlé à beaucoup d'intelligence dans son jeu. Grande, grande sensibilité et puis donner sans compter.
On va terminer par deux festivals, Laurent. Festival Israël vu d'ailleurs.
Oui, alors qui est conçu par notre excellent confrère Ariel Schweitzer. Ouais. C'est Israël vu, V-U-E-S d'ailleurs. C'est plus une quinzaine de films au total qui nous donnent la façon dont des cinéastes, et pas n'importe lesquels, parce qu'on y retrouve Claude Lanzmann, Pier Paolo Pasolini, Chris Marker, Henri Calef et quelques autres moins connus d'ailleurs, mais qui nous donnent à voir la façon dont ils ont représenté, parlé de la nation israélienne. C'est tout à fait passionnant. Ça se passe à la fois au mémorial de la Shoah, et au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris.
De l'écrit à l'écran, sinon l'autre festival.
Oui, ça vous dirait à Montélimar, du 18 au 24 septembre, à peu près, à peu près les mêmes dates que le festival précédent. 25 avant-premières, des rencontres avec des écrivains, des romanciers, un concours de pitch et de scénario. C'est, je le répète, à Montélimar.
30 secondes pour un cadeau pour Charles Berling, un cadeau multiplié par.
En 30 secondes pour trois films de Jean-Claude Brissot, parmi ses meilleur, tout simplement, Un jeu brutal, De bruit et de fureur, Noce blanche, avec pour les trois films un comédien et quel comédien, Monsieur Bruno Kremer. Voilà, on est très heureuse de vous offrir ces trois DVD qu'on recommande chaudement à nos auditeurs, et c'est on
Bravo.
Est heureuse, absolument, et c'est chez Carlotta.
Bravo, Mr. Delmas.
Merci beaucoup. Vous êtes à l'affiche de 3 jours et une vie de Nicolas Boukreyev, mercredi prochain dans les salles, et on vous laisse les clés du générique. Merci beaucoup, Charles Berling. Merci.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantes a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Charles Berling, j'y étais.